Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Des saphirs, des perles, des colliers, c'est une émission pleine d'éclat que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors afin de bien commencer la semaine, nous avons en effet sorti pour vous les bijoux de famille, en tout bien tout honneur, je précise. Je veux parler des joyaux des familles royales, notamment dont Vincent Mélan s'est fait, vous savez, une spécialité.
Alors vous allez aussi nous raconter le vol du diamant rose de Chantilly.
En effet, l'un des plus grands cambriolages de l'entre-deux-guerres, c'était en octobre 1926. Les joyaux, vous savez, sont une inépuisable source de grandes et de belles histoires. Et ce n'est pas Viviane Perret, auteure d'un recueil d'aventures joaillières, qui va nous dire le contraire. Bienvenue au pays des pierres fabuleuses.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il fut un temps où le patrimoine des nations se confondait avec celui des souverains qui les incarnaient et où ce patrimoine prenait souvent la forme de grandes parures de diamants, de saphirs, de rubis et d'émeraudes, de fastueuses séries de perles plus ou moins grosses, plus ou moins pures, d'aigrettes, de bagues et de pendentifs, de diadèmes, de rivières, de pectoraux, de couronnes, de plaques et autres jarretières, aux montures d'or fastueuses, aux fascinantes pierreries. Aujourd'hui encore, le Louvre possède, vestige du trésor de la couronne de France, quelques grandes pierres comme le Régent ou le Sancy, réponse de ce côté-ci de la Manche au célèbre Kohinour de sa gracieuse majesté. La tour de Londres renferme du reste un impressionnant ensemble de régalia et de couronnes, dont la plus importante, la couronne impériale d'apparat, comporte 2868 diamants, plus de 270 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis énormes. Rien, diront certains, à côté des collections inouïes réunies jadis par les empereurs moghols ou par les rois de Perse. Alors d'où vient notre fascination pour les grandes gemmes et pour tout ce qui s'y attache? Comment expliquer la fascination qu'a exercée et qu'exerce encore le célèbre Hope Diamond, par exemple, ou bien le diamant rose de Chantilly, dont je vous raconterai tout à l'heure le vol retentissant? L'une des avocates des cambrioleurs de ce diamant rose de Chantilly disait au moment du procès: nous tenons tous à notre passé glorieux, et si nous nous inclinons devant le diamant rose, ce n'est pas parce qu'il est rose, c'est parce que dans son scintillement, nous apercevons le vainqueur de Lens et de Rocroi. Il semble en effet que ces pierres, au-delà de leur insigne rareté, aient le pouvoir magique de retenir en elles certaines empreintes du passé. Elles sont une partie de l'histoire. Le mot « joyau » dérive de l'ancien français « jeu », nous dit Viviane Perret dans l'ouvrage qu'elle a fait paraître à la librairie Vuibert, qui s'appelle « Mille et un carats », dans le sens de ce qui amuse et fait plaisir. L'histoire qui se dessine à travers celle des joyaux reflète aussi des drames ou des situations plus cocasses qui méritent d'être contées, révélant le secret des pierres précieuses.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et en attendant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec votre invité sur Europe 1, Vincent Mélan, qui est chef du service Histoire du magazine Point de Vue. Il est historien des pierres précieuses et de la haute joaillerie.
Pour parler de joyaux, je ne pouvais pas imaginer de ne pas avoir à ce micro celui qui les connaît mieux que quiconque, qui est un peu l'expert de tous ces grands joyaux, de ces pierres, de leurs montures aussi, et de l'histoire fascinante de ces gemmes incroyables. Bonjour Vincent Mélan.
Bonjour.
Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Je sais
Absolument.
Que vous en préparez un autre d'ailleurs en ce moment. Il y a dans ces joyaux une part de notre histoire, disait-on. Il y a comme renfermé dans leur éclat un certain nombre de moments du passé. À travers les pierres, c'est l'histoire que nous essayons d'observer.
Je pense qu'à la base, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je crois que ça peut se définir d'une manière encore plus simple. Les pierres précieuses ont une chose que nul ne possède, elles ont l'immortalité.
Eh oui.
Donc un diamant, ça peut durer 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Derrière un diamant, il n'y a pas une personnalité, il y en a 50, il y en a 100. Et c'est ça qui est fascinant en tout premier lieu dans les pierres. Une pierre, elle peut vous raconter une histoire millénaire. Elle évoque, vous parliez tout à l'heure du Grand Condé avec le diamant rose, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec des pierres qui ont des milliers d'années, ben on est à côté de Cléopâtre, de Néron, de Louis XIV, du Grand Mogol, de Tamerlan, de Gengis Khan, de Zhu Yi, d'Abraham Lincoln, si vous voulez. Vraiment, elles nous racontent quelque chose.
Et elles ne bougent pas, elles ne changent pas.
Elles ne changent pas. De temps en temps, on les travestit un petit peu pour pouvoir les négocier.
On les retaille.
On les retaille, parce qu'il y en a toujours qu'on recherche. Et je pense qu'en fait, elles nous permettent à nous, pauvres mortels, quand on les voit, quand on les touche, elles nous permettent de nous insérer dans cette espèce de épopée extraordinaire. Et ça, je pense que ça éveille en nous un petit sentiment d'immortalité aussi. On se dit, je fais partie de l'histoire parce que je vois cette pierre qui me rappelle tant de choses.
Certaines pierres ont un surcroît de magie. Ce sont des pierres qui appartiennent à des collections princières ou royales, bien entendu. Venons-en peut-être avant tout à la collection de la couronne de France. On a raconté ici à ce micro, je ne sais pas, une bonne dizaine de fois, le célèbre vol des joyaux de la couronne au moment des événements de septembre 1792. C'était au garde-meuble de la couronne, place de la Concorde, dans l'actuel hôtel de la Marine. Avant d'être volé, évidemment, tous ces joyaux avaient été amassés par les différents souverains. Quel est le premier à constituer le fond de cette collection ?
Alors, le premier, c'est François Ier qui donc détermine le statut des joyaux de la couronne en ce sens qu'il décrète cette règle qui a toujours cours pour les biens qui appartiennent à l'État. Il décrète la règle d'inaliénabilité des gemmes de la couronne,
voilà,
qui existe toujours en République à l'heure actuelle pour ce qui est dans les musées d'une manière générale. Lui, il l'applique aux joyaux. Et le joyau le plus ancien est antérieur à François Ier puisqu'en fait, c'est un rubis ou plutôt un spinel, ce qu'on appelait à l'époque des rubis, mais ce sont des spinels, qui est un spinel qui s'appelle la Côte de Bretagne. Qui sera taillé en forme de dragon, qui lui vient d'Anne de Bretagne et des ducs de Bretagne. Donc c'est Anne de Bretagne qu'il a vraisemblablement légué à sa fille Claude de France, qu'elle avait eue avec le roi Louis XII, et c'est Claude de France qui l'a apporté à la couronne lorsqu'elle a épousé François Ier.
On parlait de pierres retaillées tout à l'heure, celle-ci a précisément été retaillée sous Louis XV.
Hein. La Côte de Bretagne a été retaillée pour servir au centre, pour être sertie au centre d'une toison d'or,
oui.
Parce qu'en ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait les diamants de la couronne de France jusqu'en 1792 étaient principalement portés par le roi. La reine avait les petites choses, mais c'était le roi qui portait les grandes chose. La pièce la plus importante était ce qu'on appelait la toison d'or de la parure de couleur. C'était une toison d'or qui avait la Côte de Bretagne, le diamant Hope, qui est maintenant
qui était à Washington, le diamant bleu de la couronne de France
qui était
à l'époque.
Le diamant bleu de Louis XIV de la couronne de France, qui était triangulaire à l'époque. Une série de diamants jaunes, c'était une pièce qui avait une valeur absolument colossale. Et la Côte de Bretagne a été taillée en forme de dragon. Et c'est d'ailleurs, la Côte de Bretagne, la seule gemme de la couronne qui soit là depuis l'origine et qui soit toujours dans les collections nationales, puisqu'elle est toujours au musée du Louvre.
Le souverain qui va accroître considérablement cette collection, notamment grâce au legs de Mazarin, du reste, c'est Louis XIV.
Vous savez, moi, ça m'amuse toujours quand on parle du legs de Mazarin, parce qu'en fait, je pense que ce n'était pas un legs. En fait, les fameux diamants que Mazarin a légués à Louis XIV, c'était une forme d'amende.
Les Mazarins.
Qu'on appelait les Mazarins. C'est une forme d'amende volontaire. C'est une contribution volontaire, on dirait aujourd'hui, en langage fiscal. Mazarin était quand même Premier ministre. Il était le plus grand milliardaire de son temps. C'était quand même le Liliane Bettencourt du XVIIe siècle. Il avait amassé en une génération une fortune, mais colossale, totalement volée, soyons clairs. À l'époque, on n'avait aucun problème à faire une confusion entre les biens de l'État et les siens. Et comme il voulait absolument que ses biens soient transmis à ses héritiers, c'est-à-dire ses neveux, il a fait une forme de contribution volontaire à Louis XIV. Il lui a donné, avant de mourir, les 12 ou 14 plus beaux diamants de ses collections qui valaient des millions de francs de l'époque.
Un brillant repentir,
voilà,
en quelque sorte.
Voilà, c'était un repentir très très brillant, ce qui a permis de faire passer la pilule. Et Louis XIV a accepté que la fortune de Mazarin soit transmise. Je crois qu'il a accru encore l'amende parce qu'il a demandé une contribution volontaire aux héritiers qui était de l'ordre de 2 ou 3 millions de livres qu'évidemment il a jamais remboursé, mais les héritiers ont pu hériter de la fortune de Mazarin et Louis XIV a récupéré les 15 plus beaux diamants de son temps, les plus gros aussi, les plus spectaculaires, et certains existent toujours, le plus grand de tous, le Sancy, qui a une histoire, alors là on est encore au-delà de la Côte de Bretagne, puisque le Sancy ce serait Charles le Téméraire, qui l'aurait perdu lors de la bataille de Granson. On n'a pas vraiment la preuve, mais on sait qu'il y avait un très grand diamant.
Il portait ça sur lui ?
Absolument, il l'aurait porté avec, ce aurait été un joyau de chapeau, avec 2 rubis balais, et il l'a perdu lorsqu'à la bataille de Granson, les Suisses ont pillé le camp du duc de Bourgogne. Le Sancy a disparu pendant une centaine d'années. Monsieur de Sancy, qui lui a donné son nom, l'a acheté. Il a voulu le vendre à Henri IV, qui n'a pas voulu le payer parce qu'il était trop cher. Donc Monsieur de Sancy l'a vendu au roi d'Angleterre, Jacques Ier. Charles Ier, le fils de Jacques Ier, l'a possédé. Il a été décapité. Sa veuve Henriette est venue se réfugier en France chez son frère Louis XIII. Elle a vendu le Sancy à Mazarin pour vivre. Mazarin l'a offert à Louis XIV. Il est resté dans les collections de la couronne. Il a été volé en 1792. Il est passé en Espagne. Il est passé en Russie. Il est allé en Inde. Il est allé en Turquie et c'est le président Giscard d'Estaing qui l'a racheté en 1975.
Vous voyez qu'avec les grandes gemmes, que ce soit celles de la couronne de France ou celles d'autres trésors à travers le monde, on voyage non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Nous sommes précisément au cœur de l'histoire des joyaux, perles et autres colliers sur Europe 1. On en parle avec vous, Franck, bien évidemment, et avec votre invité, Vincent Mélan, qui est chef du service histoire du magazine Point de Vue.
Alors tout à l'heure, nous allons raconter le vol, ce cambriolage incroyable qui a eu lieu au château de Chantilly en 1926, ce vol du diamant rose de Chantilly qu'on appelle le Grand Condé. Nous étions en train de parler avec Vincent Mélan d'un certain nombre des grands joyaux de la couronne de France, le Sancy, le Régent, etc., qui sont des pierres mythiques littéralement, qui ont chacune son histoire, bien entendu. On peut dire qu'en fait, dans le cas des joyaux de la couronne de France, tout ce qui est petit a disparu au moment du vol de 92, hein, du sac du garde-meuble de la couronne, mais qu'on a conservé les très grandes pierres et qu'on a accru les collections par la suite.
Alors il y a trois étapes. Il y a François Ier qui crée, Louis XIV qui enrichit considérablement, s'est dispersé la Révolution en grande partie. On a sauvé à peu près que le Régent à cette époque-là. Mm-hmm. La Côte de Bretagne est partie en exil puisque c'est Louis XVIII qui l'a racheté en immigration, mm-hmm, et qui l'a ramené en France à la Restauration. Celui qui a beaucoup reconstitué la collection, c'est Napoléon Ier, parce que Napoléon aimait quand même ce faste. Il n'était pas très bien né, donc il fallait quand même que les symboles du pouvoir devaient être assez ostentatoires. Joséphine adorait les bijoux en plus, donc ça se passait plutôt bien. Le grand désastre, ça a été la vente organisée par la Troisième République en 1887.
Voilà, ça, c'est terrible.
Là, on a tout vendu aux enchères.
C'était Bernard Morel qui a beaucoup travaillé là-dessus.
Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on a gardé trois choses, qui sont donc le Sancy, le plus beau diamant du monde. Diamant de Golconde, indien, 144 carats, moins gros que ceux qui se trouvent en Angleterre, mais beaucoup plus beau en qualité, beaucoup plus extraordinaire. L'hortensia, qui est d'un diamant rose, qui provient de Louis XIV. Le fameux Sancy et la Côte de Bretagne. Tout le reste a été vendu. Et ce qui est quand même navrant, c'est que depuis une trentaine d'années maintenant, depuis le président Giscard d'Estaing, les pouvoirs et les publics et les musées français se battent pour racheter à des prix mais prohibitifs dans des ventes internationales. La moindre petite broche fait un prix invraisemblable. Et là, vous avez le pauvre musée du Louvre avec sa petite sacoche qui vient essayer d'acheter 3 francs 6 sous ce qui a été vendu et qui va faire 4 millions d'euros.
J'ai commencé l'émission par ça. Il faut bien comprendre que pendant longtemps, ces joyaux, c'était l'avoir national. Hein. C'était une sorte de réserve de valeur.
C'est vrai que c'était l'avoir national, mais on avait quand même, et c'est la grande différence avec ce qui se passe en Angleterre à la Tour de Londres, les joyaux de la Tour de Londres sont des choses qu'on porte une fois par an ou une fois à l'occasion du couronnement ou de l'ouverture du Parlement. Les joyaux de la couronne en France, tels que la France les a connus jusqu'en 1887, c'était quand même des choses très personnelles. Alors, jusqu'à Louis XIV, Louis XV, c'était le roi qui portait. Après Louis XV, c'est la reine qui porte. Mmh. Et c'était des choses qui étaient quand même très sensuelles, très personnelles, que le roi et la reine portaient d'une manière familière. Ils portaient ça sur leurs vêtements.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant très longtemps, on cousait les joyaux à même les vêtements et que donc les parures étaient recomposées à chaque grande fête.
Il y a une raison à ça, si vous voulez. C'est que jusqu'en 1725, en ce qui concerne les diamants, on a une rareté de la pierre qui est très très grande, puisque les seules mines connues sont les mines d'Inde qui sont épuisées, donc on a très peu de diamants et on n'est pas du tout ces milliers de petits diamants qu'on connaît aujourd'hui avec lesquels on entoure les gros diamants pour faire des parures. Donc comme on a très peu de diamants, on les monte sur des chatons métalliques avec des attaches et on les coud, on les compose, on les décompose. À partir de 1725, on découvre les mines du Brésil.
On devait passer son temps à les compter, j'imagine,
C'est la princesse Palatine, ou c'est l'électrice de Hanovre qui écrit à sa fille, qui lui dit: j'étais hier chez votre cousine, madame, monsieur était en train d'arranger ses diamants, et très aimablement, monsieur m'a demandé de venir l'aider à arranger une agrafe de chapeau qu'il se composait pour la fête. Donc c'était un passe-temps. Les gens qui avaient des diamants passaient leur temps à regarder leurs diamants,
composer,
à les composer,
ouais.
Qu'est-ce que je vais me faire.
Et puis après, tout ça devient fixe, évidemment.
Après, avec la découverte du mine du Brésil, le prix du diamant chute des deux tiers. Mmh. Donc le diamant devient, entre guillemets, plus facile, plus abordable. Il y a beaucoup plus de diamants. Donc là, on commence à composer des parures qui ne bougeront plus. Et c'est ce qui va se passer au XVIIIe siècle, enfin dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et ça, c'est la période, si vous voulez, Marie-Antoinette. Et c'est là que ça change un petit peu d'époque.
Et puis
style.
Après, à l'époque néoclassique, qui correspond grosso modo chez nous à celle de l'Empire, on se met à faire des grandes parures, alors d'une couleur uniforme. Par exemple, la grande parure d'émeraude.
Alors ça, c'est le côté un peu kit de Napoléon Ier. Il fallait que ça soit comme on doit
total
être.
Look.
Il fallait que ce soit bien. Vous savez, Madame de Boigne disait toujours, les balles, les réceptions à la cour de Napoléon, c'était des revues avec des femmes. Donc c'était un peu ça. Si vous voulez. En plus, on se demande comment les pauvres femmes pouvaient bouger avec de tels monuments de pierres précieuses. C'est vrai qu'on faisait le total look en vert, le collier, les boucles d'oreilles, le diadème, la broche, les bracelets. C'était spectaculaire, mais quand même un peu ennuyeux.
On connaît cette anecdote de Napoléon demandant, ne sachant pas trop comment se comporter avec la vieille noblesse d'ancien régime, mais demandant à la duchesse de Richelieu si les diamants qu'elle porte sont tous vrais. Et la duchesse, absolument choquée, répond « Non, sire, mais pour venir ici, j'ai trouvé que c'était bien assez. Il y avait chez Napoléon un côté nouveau riche, ça, forcément. »
Bien sûr. Et c'est vrai qu'on avait un uniforme, presque, c'était la tenue de cour obligatoire. Il fallait... D'ailleurs, on trouve dans les archives des joailliers parisiens, parce qu'il faut savoir quand même que la joaillerie, c'est un art qui est typiquement français.
Et oui.
C'est un des derniers savoir-faire qui nous reste vraiment. Il faut savoir que la joaillerie, à l'heure actuelle, ça fait travailler entre 25 et 30 000 personnes à
disons-le,
Paris.
Disons-le.
Donc, ce sont des emplois quand même très qualifiés. C'est un art de vivre et une manière de faire les choses qui est typiquement française.
Mais même à Paris, les bijoux fantaisie ont quand même eu tendance à remplacer les grandes parures authentiques.
Au XXe siècle, vous avez toute la période d'émancipation de la femme. Et c'est vrai qu'on voit le travail que Gabrielle Chanel a pu faire dans la mode. Elle le fait aussi dans la joaillerie. C'est Chanel qui décrète l'abolition du total look.
Eh oui.
Donc c'est elle qui supprime la parure, c'est elle qui mélange les rubis avec les émeraudes, c'est elle qui met des perles dans tous les sens, qui mélange les bijoux faux avec les bijoux vrais. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé à une telle désacralisation de la joaillerie qu'on a un peu tendance à l'oublier en France. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les étrangers viennent du monde entier ici. En ce moment, il y a la Biennale des Antiquaires. Il faut voir quand même ce que les étrangers viennent acheter en France. La grande exposition Van Cleef Arpels a débuté au Musée des Arts Décoratifs. Elle va durer 6 mois. Il y a des gens qui viennent du monde entier voir tout ça. Et je pense que les Français, par moment, ou les Françaises, ont un peu oublié ce côté...
Vous dites les Françaises parce qu'aujourd'hui, à part quelques piercings ou quelques bagues, les hommes ne portent plus de bijoux. Pendant longtemps, c'était eux qui portaient l'essentiel des joyaux.
Pendant longtemps, les hommes en portaient autant que les femmes.
Oui, c'est ça.
Globalement, je pense que les Français ont un peu oublié la signification de la joaillerie. Ils ont oublié que c'était un art de vivre. Ça faisait partie de l'art de vivre à la française, comme la gastronomie. Et c'est vrai que nous, on a connu la génération de nos grands-mères qui avaient encore leur collier de perles, leurs bagues, les bijoux qu'il y avait. De toute façon, moi, c'est le test que je fais toujours. On est quatre dans ce studio et en fait, moi, je conseille à tout le monde de regarder un petit peu tout ce que vous avez, ce que vous portez comme bijoux sur vous. Regardez les bagues, regardez les bracelets, regardez les chaînes et tous ou toutes ont une signification et vous disent quelque chose d'intime. Et c'est ça qui fait la force des pierres. C'est l'intimité qu'elles peuvent procurer à la personne qui les porte.
Dans un instant, nous en venons au vol du diamant rose du château de Chantilly.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 consacré aujourd'hui au vol d'un diamant exceptionnel, le diamant rose de Chantilly.
Mardi 12 octobre 1926, toute la nuit, le vent a soufflé en tempête. À 7h30, au moment où ils arrivent pour prendre leur service au château de Chantilly, les gardiens du musée Condé doivent fouler dans la cour les premières feuilles mortes de la saison dont les bourrasques ont littéralement jonché le pavé. Comme chaque jour, deux d'entre eux s'occupent de la tour nord où se trouve le fameux cabinet des gemmes. Ils ouvrent, ils entrent et là, ils étouffent un juron. Dans la pièce, encore plongée dans une demi-obscurité, les bris de verre, les débris de vitrine ne laissent aucune place au doute. Les joyaux de Chantilly viennent d'être dérobés. Aussitôt prévenu, le conservateur adjoint, Gustave Macon, se montre horrifié. Vous imaginez, pour lui, la catastrophe. Le musée Condé, il faut le dire, a été offert à l'Institut par le duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe. Il est dirigé par un académicien qui, à l'époque, se trouve être le maréchal Pétain et le véritable maître des lieux porte le titre de conservateur adjoint. Le grand Condé, murmure donc le conservateur adjoint Gustave Macon, le grand Condé, ils m'ont pris le grand Condé. Ce surnom de grand Condé, donné en hommage au plus célèbre des occupants de Chantilly, désigne un très gros diamant en forme de cœur, de la taille d'un œuf de pigeon, qui présente la particularité rarissime, pour ne pas dire unique, d'être de teinte uniformément rosée. Tous les joailliers du monde connaissent ce diamant rose de Chantilly. Voici la description précise qu'en donneront les experts. Son poids est de 9,01 carats. Il mesure du talon à la pointe 21,5 mm. Son épaisseur est de 5 mm. Sa couleur est d'un rose unique et parfaitement pur. Il est d'apparence piriforme, donc il a la forme d'une poire, avec un chevet très prononcé sur le feuilletis, côté gauche de la surface de la table. La disparition de cette merveille est donc un événement d'importance mondiale, sans parler des 67 autres joyaux qui ont été volés pendant la même nuit, en particulier un poignard et une plaque de ceinture enrichie de diamants qui avaient été offerts au duc d'Aumale par le bey de Tunis, le poignard d'Abdelkader qui est orné de perles brutes, de rubis et d'autres pierres précieuses, trois bracelets en or avec les portraits en miniature du duc d'Aumale, de la reine des Belges et du duc de Montpensier, une bague mérovingienne décachée aux armes des Condés, des Orléans, des tabatières, des boîtes à pilules, etc., etc. Gustave Mâcon est effondré. Il saute littéralement sur le pauvre gardien de nuit qui avait achevé son service et qui, éberlué, se contente de répéter qu'il n'a pas eu le temps de venir jusqu'à la tour nord, qu'il n'a rien vu, qu'il n'a rien entendu. Voilà qui ne fait pas l'affaire de ces messieurs de la police. Le commissaire et ses inspecteurs ont surgi en trombe. Ils sont bientôt rejoints par le directeur de la Sûreté Générale en personne, Jean Quiap. Jean Quiap, c'est lui qui, quelques temps plus tard, deviendra préfet de police de Paris et dont on parlera tant au moment des événements du 6 février 1934. Alors, évidemment, on fait des recherches, la police se met à enquêter, au château de Chantilly même, dans les environs, à la gare, on va voir qui sont les premiers voyageurs qui ont pris les deux premiers trains avant la découverte du vol au château. On ne tarde pas à mettre la main sur l'échelle qui a permis aux voleurs d'escalader la tour nord jusqu'au balcon qui donnait sur le cabinet des Gemmes. Cette échelle a été rafistolée, prêt par les cambrioleurs et ça met la puce à l'oreille de la police qui se dit qu'elle n'a probablement pas affaire à des professionnels. On retrouve aussi le vilebrequin dont se sont servis les cambrioleurs pour, une fois la vitre fracturée, pour trouer le volet de bois qui fermait l'accès au cabinet des Gemmes et pour finalement arriver à démolir le volet et à l'escamoter. On conduit M. Mâcon à la sûreté, on l'interroge de nouveau. Il est moins prolixe, ce conservateur adjoint, sur la sécurité du musée que sur le pédigré du Grand Condé lui-même, auquel il revient toujours. Il explique qu'on ne retrouve de diamants roses dans les inventaires de Chantilly en fait qu'en 1740, c'est-à-dire après la mort du duc de Bourbon. Et encore, dit-il, le bijou n'est-il pas à l'état isolé, mais compris dans le collier de la toison d'or des princes de Condé. C'est un diamant en forme pendeloque couleur rose du poids de 35 grains 1/16, donc ce que je vous disais tout à l'heure, 9,01 carats. Quelle a été depuis lors l'odyssée de cette pierre extraordinaire? Est-ce qu'elle a figuré au nombre des diamants qui avaient été engagés au moment de la Révolution, au moment où les princes de Condé étaient en émigration, des diamants engagés en 1791 dans une banque d'Amsterdam et qui ont par la suite été retirés en 1815, après la Restauration? Est-ce qu'au contraire, cette pierre a fait partie d'une des plaques de l'ordre du Saint-Esprit qui a été dessertie après la mort du duc de Bourbon en 1830? En fait, personne ne peut le dire. La seule chose dont on soit absolument certain à son sujet, c'est que le duc d'Aumale avait hérité ce diamant extraordinaire des Condé, au moment donc de la mort du dernier prince de Condé, puisque le petit duc d'Aumale, qui à l'époque avait 7 ans, était son unique héritier, et que le duc d'Aumale avait fait monter le diamant rose en épingle de cravate entourée de 24 diamants. Très vite, la police met en place tout un plan de surveillance des postes frontières. Évidemment, on se doute bien que les cambrioleurs vont essayer d'écouler leurs marchandises, non seulement le diamant rose, mais n'oubliez pas, toutes les autres pierres qui figurent sur les 67 autres lots qui ont été dérobés pendant cette nuit fatidique du 12 octobre 1926. La police effectue un certain nombre de descentes chez des receleurs bien connus des services. Elle s'assure aussi de la coopération des polices voisines, à commencer par Scotland Yard, puisque c'est une tradition en France. La plupart des cambrioleurs ayant de gros butins ont l'habitude d'aller écouler leurs marchandises de l'autre côté de la Manche. Hatton Garden, qui est le marché aux pierres précieuses de Londres, est mis sous surveillance étroite et l'on voit une brigade spéciale effectuer un certain nombre de perquisitions, non seulement chez d'éventuels receleurs, mais dans un certain nombre de cafés de Soho, dans des clubs de West End, enfin dans tous les endroits qui pourraient avoir accueilli la marchandise volée à Chantilly. De ce côté-ci du Channel, imaginez l'émotion, elle est à son comble. Tous les grands quotidiens, dès le 13 octobre, ont mis en une cette affaire du vol du diamant rose. Les Français deviennent littéralement familiers du Grand Condé dont ils ne connaissaient pas le nom 3 jours plus tôt. De quoi accabler un peu plus le pauvre Mâcon, qui du coup ne mange plus, ne dort plus et parle même de mettre fin à ses jours.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui nous relate cet après-midi sur Europe 1, le vol du diamant rose au château de Chantilly.
Alors on cherchait le Grand Condé en Angleterre. Il était moins loin que ça. Le samedi 18 décembre 1926, c'est-à-dire 2 mois après le cambriolage de Chantilly, dans la soirée, M. Laurence, qui est commissaire spécial adjoint à la gare du Nord, donc à Paris, le commissaire Laurence reçoit l'appel d'une hôtelière qui prétend avoir retrouvé le diamant rose de Chantilly. Évidemment, le commissaire attrape ses affaires, saute dans une voiture et accourt ventre à terre à l'adresse indiquée à l'hôtel Métropole, 56 boulevard de Strasbourg. Et là, il est reçu par la patronne, Madame Potonnier, qui l'accueille tout émue, évidemment, et qui le conduit jusqu'à sa cuisine. « Voilà ce qui s'est passé, dit-elle. » Et la brave femme raconte toute son histoire. 2 jours plus tôt, le jeudi 16 décembre au matin, un jeune client, qui est un commerçant alsacien, s'est absenté en prévenant qu'il serait de retour 24 heures plus tard seulement, et en laissant derrière lui, dit-elle, mais alors une pagaille, une chambre dans un désordre total. Le vendredi matin, le client n'était pas de retour, ni le vendredi soir d'ailleurs, et le samedi après-midi seulement, Madame Pontonnier, bien patiente, monsieur le commissaire, dit-elle. Madame Pontonnier demande à son employé de réunir les quelques hardes du jeune homme dans sa valise et de remettre la chambre en état. Après tout, elle va la louer, cette chambre, puisqu'il ne revient pas, ce client. Ce que fait la femme de chambre, évidemment, une certaine Suzanne Schiltz. Or, au beau milieu des affaires du client alsacien, la femme de chambre découvre une belle pomme bien rouge, bien luisante, qui lui donne envie de croquer dedans. Alors, Suzanne mord à belles dents, comme dans un conte de fées, et en fait, elle manque de se casser une incisive sur quelque chose de dur, une pierre, un diamant rose, le Grand Condé. Pour la police, ce sera dès lors un jeu d'enfant de planquer à l'hôtel en attendant le receleur qui, de fait, se présente sur la pointe des pieds le dimanche matin. Les policiers le laissent remonter jusqu'à sa chambre, qu'on a eu soin de tout remettre en désordre, évidemment, pour qu'il ne se doute de rien. Et par un petit trou que les policiers ont eu le temps de pratiquer dans la porte, ils observent l'Alsacien. Celui-ci ne tarde pas à retourner la valise en tous sens, à la recherche d'une certaine pomme. En fait, il ne prendra même pas la peine de le nier. Quand les policiers le prennent sur le fait, il avoue tout de suite. Il est peut-être un peu soulagé finalement, ce receleur, qui va avouer être en vérité l'un des 2 cambrioleurs, allant jusqu'à dénoncer son jeune complice et à fournir à la police un moyen de l'appréhender. Merveilleuse nouvelle pour M. Gustave Macon, le diamant rose a été retrouvé. Il sera tout de même un peu plus difficile de récupérer les autres pierres et impossible de restituer leurs montures qui ont été arrachées par les voleurs, fondues par un receleur. Les diamants des poignards d'Abdelkader et du Bey de Tunis, ceux qui ornaient les bonbonnières, les tabatières, d'écailles et de cristal de roche, tout ça a été arraché par une bijoutière du quartier de la gare de l'Est. En l'absence de tous les trésors du XVIIIe siècle qui ont ainsi été dépecés, les pierres retrouvées sont réunies par la police et elles vont faire l'objet d'une grande composition de 684 pierres, composition de Maurice Serrore, qui sera restituée en grande pompe au musée Condé en juin 1927. Et au centre de la composition, d'un goût assez douteux, disons-le, trônera en majesté le célèbre diamant rose. Quant à l'hôtel du boulevard de Strasbourg, qui aujourd'hui a disparu, il avait été rebaptisé tout de suite par ses propriétaires « Hôtel du diamant rose ». C'est ce qui s'appelle avoir le sens de la publicité. Vincent Mélan est toujours avec nous pour parler de joyaux, de pierreries, de choses absolument magnifiques. Et puis Viviane Perret nous a rejoint depuis un petit moment déjà. Elle est l'auteur de « 1001 carats ». Le titre vous dit ce dont le livre parle.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie numéro 8 composée par Antonin Dvorak. On vous retrouve comme convenu avec vos invités, Franck Ferrand.
joyaux, perles et autres pierreries qui ont fait l'histoire, c'est le contenu, c'est le cœur même de cet ouvrage de Viviane Perret, « Mille et un carats », paru à la librairie Vuibert. Bonjour Viviane Perret.
Bonjour Franck Ferrand, bonjour Vincent Mélan.
Vous racontez toutes sortes d'histoires. Ce qui est bien avec les joyaux et avec les pierres précieuses, c'est qu'elles sont toujours au centre d'aventures incroyables.
Rocambolesques, comme l'a très bien dit tout à l'heure Vincent Mélan, c'est un petit peu d'immortalité. Donc la pierre va nous survivre et elle va passer de main en main et ça permet de raconter beaucoup d'histoires différentes. Donc c'est un fil conducteur très brillant, très précieux pour pouvoir raconter l'histoire avec un grand H.
Alors vous ne racontez pas, vous, l'histoire de ce cambriolage du château de Chantilly, hein, de diamant rose. En revanche, vous racontez d'autres cambriolages majeurs, d'autres vols, notamment le célèbre vol des joyaux de la Tour de Londres. On est là dans une époque très troublée de l'histoire de l'Angleterre.
C'est la seule et unique fois où les joyaux de la Tour de Londres vont effectivement quitter la Tour de Londres. Alors là, on est au 17e, c'est une période extrêmement particulière de l'Angleterre. C'est une période de guerre de religion.
Moi, j'ai un petit et de crise politique, oui.
Et de grosse crise politique. Surtout. Moi, j'ai un gros faible pour notre voleur parce qu'il n'est pas beau et que j'ai un faible comme ça pour ces héros qui ne sont pas des Brad Pitt. Et voilà. Et ce qui va motiver son vol, ça n'est pas l'appât du gain, mais c'est bien la situation politique.
Parce qu'en fait,
Voilà, comme le sang. Parce que en fait, lorsqu'il va voler ses bijoux, on est encore dans une période où la légitimité du roi, de la personne qui a été couronnée, est complètement liée au fait de pouvoir toucher la couronne, toucher le sceptre. Donc, si vous volez ça, vous volez aussi un petit peu de sa légitimité. C'est vraiment une particularité de cette situation. Donc, il va s'introduire, c'est très rocambolesque, il va s'introduire dans la Tour de Londres en se faisant passer pour un clergyman et il va même leurrer le pauvre gardien qui a quand même plus de 70 ans en lui disant qu'il allait marier son neveu qu'il n'avait jamais vu avec sa fille. Et puis, il va partir avec les bijoux. Alors, il a des complices. Il y en a un qui met le globe, qui est quand même une pièce assez lourde, dans son pantalon. Il tient son pantalon à deux mains. L'autre prend un serpe. Le troisième prend la couronne qu'il fracasse à coups de maillet et dont tombe de cette couronne le fameux prince noir dont vous avez parlé tout à l'heure, qui orne aujourd'hui la couronne d'apparat impérial, mais qui à l'époque ornait une autre couronne. Et donc il ramasse le prince noir qui est un spinel, le met dans la poche et tout le monde court, sort de la Tour de Londres. Bon, ils se font rattraper, mais c'est la seule et unique fois où les bijoux ont été volés.
Alors c'est un peu quand même... vous trichez, si je puis dire, Viviane Perret, puisque vous racontez l'histoire de joyaux, mais en vérité, à travers ces histoires de joyaux, ce sont des histoires d'êtres humains que vous nous racontez. Ce sont de vrais personnages qui sont les héros de votre ouvrage.
Mais je reprends exactement ce qu'a dit Vincent Mélan tout à l'heure, à savoir qu'il y a une intimité entre le joyau et la personne. Donc à partir du moment où vous l'avez, ils sont souvent portés, pas même la peau, mais ils sont portés sur le corps, ils sont portés avec nous. Donc en fait, c'est bien la personne qu'on suit. Et puis aussi tout l'attachement qu'elle a vis-à-vis de ses joyaux, des attachements qui vont parfois jusqu'aux guerres.
Alors parmi ces personnages qui sont au cœur de l'ouvrage, il y en a un que Viviane Perret a surnommé le Marco Polo des pierres précieuses, c'est le célèbre tavernier. Nous y venons dans un instant.
J'avais une boîte en fer blanc, coffre de pirate rempli de diamants. Topaz, héliodore, saphir, chrysolite, c'était mon trésor quand j'étais petite. Richesse incongrue, joyau scintillant, qui aurait rendu jaloux les sultans.
Juliette sur Europe 1 qui nous chante la petite boîte en fer blanc remplie de diamants. Et oui, avec Franck, nous parlons aujourd'hui de joaillerie en compagnie de vos invités, bien sûr.
Le Marco Polo des pierres précieuses, c'est un des chapitres de l'ouvrage de Viviane Perret, Mille et un carats, sous-titré Jean-Baptiste Tavernier et les mines de Golconde. C'est quand même le grand aventurier de la pierre précieuse. Pour le compte de qui voyageait-il?
Pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a commencé son premier voyage en 1630, après 10 années qu'il a passé dans les guerres. En fait, Tavernier, c'est une famille protestante à l'origine d'Anvers, et ils sont partis d'Anvers parce qu'ils étaient persécutés en tant que protestant. Son père s'est installé comme géographe sous Louis XIII. Il a été complètement fasciné par les cartes que son père et son oncle faisaient. Il a toujours voyagé. D'ailleurs, il dit dans ce qui a été un immense succès à l'époque, qui était donc Les Six Voyages de Jean-Baptiste Invernier, que son premier désir, ça a été le voyage. Donc il est parti à l'âge de 15 ans. Il a commencé à voyager pendant 10 ans. Plutôt en s'engageant comme dans des armées. Et en 1630, il a commencé à partir en Orient. Il a aussi profité de l'ouverture économique de cette époque. Et il a fait une rencontre extraordinaire avec les pierres précieuses. Et à partir de là, il a voulu non seulement se lancer dans le négoce des pierres précieuses, mais aussi pouvoir négocier en direct avec le propriétaire des mines de Golconda, qui était le sultanat de Golconde, en Inde, au centre de l'Inde. Et ça, c'était vraiment un aventurier, parce que tout le monde lui disait, mais non seulement il ne faut pas aller jusque-là, mais en plus on ne peut pas négocier en direct. Et lui, il l'a fait au cours de ses six voyages.
Mais c'est lui qui a fixé énormément de choses, parce que par exemple, le poids des pierres précieuses se fait en carat. Le carat, en fait, c'est un truc indien qui vient de la graine de caroubier. Donc la graine de caroubier, c'est une chose qui pèse toujours à peu près le même poids. Donc les marchands indiens utilisaient la graine de caroubier.
Ces anciennes unités naturelles qui deviennent des unités théoriques.
Et c'est Tavernier qui a apporté le mot carat pour mesurer le poids des pierres précieuses.
Et puis il a aussi une vie absolument extraordinaire, parce que quand il s'est arrêté au bout de ses six voyages, il aurait pu prendre sa retraite. Il avait été élevé au rang de la noblesse par Louis XIV, et ça, il en était absolument ravi, parce que ça comptait aussi pour lui d'avoir les honneurs en France qu'il recevait en Orient, parce qu'il était reçu dans toutes les cours d'Orient. Il faut savoir que les pierres précieuses, il ne les vendait pas que pour la France. Tout le long de son périple, il les vendait à d'autres cours. Et puis, c'était insupportable pour lui simplement d'être là au milieu de ses souvenirs. Et il a repris du service. Il est mort à 84 ans à Moscou, alors qu'il était en route vers la Perse pour réouvrir un commerce. Alors cette fois-ci, non plus avec la France, mais l'Allemagne, puisque la révocation de l'édit de Nantes était passée Et là, il était devenu un paria.
Ce qui est très bien dans le choix des aventures qui composent les chapitres de votre ouvrage, Viviane Perret, c'est que, justement, vous nous montrez divers aspects de ce monde de la joaillerie. Vous parlez d'aspects économiques, vous parlez d'aspects historiques. Vous nous montrez que les joyaux ne sont pas toujours des joyaux qu'on porte. Du reste, je pense au cabinet d'ambre de Tsarskoïe Selo.
Et d'ailleurs, un petit morceau d'ambre pouvait vous acheter un esclave dans l'Antiquité. C'était dire combien, à l'époque, c'était considéré une matière organique qui était considérée comme un joyau.
Très, très riche.
Et on en a tapissé, effectivement, une pièce à l'origine.
Du Palais Catherine, oui.
Alors, à l'origine, cette pièce, elle était pour Sophie Charlotte, qui était reine en Prusse, au tout début du XVIIIe siècle. Et puis, son successeur, Frédéric Guillaume Ier, qui était surnommé le roi sergent, il n'avait vraiment strictement aucun goût pour ce type de frivolité. Donc, comme il devait faire des cadeaux d'État et que le tsar Pierre le Grand passait par là, il en a profité, il s'est débarrassé d'un yacht qui n'a jamais atteint les rives de la mer Baltique, parce qu'il a eu des petits problèmes. Et puis aussi ces fameuses caisses qui contenaient des panneaux d'ambre, sauf qu'il ne lui a pas donné le mode d'emploi. Donc quand il est arrivé en Russie, impossible de les remonter. Et il a fallu attendre, là effectivement je résume l'histoire et je la raccourcis, mais il a fallu attendre Catherine II, qui s'est pris de passion et pour le palais de Tsarskoïe Selo, qui n'est pas très loin de Saint-Pétersbourg, et pour le cabinet d'ambre, pour le remonter, pour tricher avec des colonnes, remettre des pièces et faire ce qu'on appelait à l'époque la huitième merveille du monde, qui était visitée.
L'ambre, il faut dire, c'est très spectaculaire. J'ai un souvenir ébloui de ce cabinet. L'ambre est gravé en intaille derrière la partie exposée et plaqué sur une plaque d'argent, ce qui
fait
briller.
C'est le principe de la marqueterie boule.
J'avais l'intention, pour finir cette émission, de parler de ce qui constitue pour une grande partie des familles françaises l'essentiel des joyaux, c'est-à-dire les bagues de fiançailles et de mariage. Un mot peut-être, Viviane Perret.
Oh ben, la bague, c'est vraiment ce qui représente le plus.
C'est tout ce qui reste.
La connivence entre le bijou et puis l'intimité de la personne.
C'est tout ce qui reste, et il y a même des gens qui renoncent, ce qui est quand même dramatique.
Voilà.
Ne renoncez pas à vos bagues.
Mais non, surtout en période agitée économiquement. Vous ne savez pas ce que vous pourrez faire demain avec votre bague.
Voilà, et c'est conseil. À Tiffany qu'on doit la vraie bague de fiançailles telle qu'on la connaît maintenant, le solitaire, quand ils ont inventé les griffes qui tenaient le diamant et qui mettaient donc en valeur l'éclat de la pierre.
Merci beaucoup Viviane Perret. 1001 carats, joyaux, perles et autres pierreries qui ont fait l'histoire, c'est à la librairie Vuibert. Je laisse Vincent Mélan repartir à l'écriture de son propre ouvrage qui sortira bientôt sur Van Cleef & Arpels, dont on peut en ce moment même visiter depuis vendredi dernier l'exposition à Paris.
Jusqu'à la fin du mois de mars, c'est très beau.
Merci beaucoup à vous deux. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, nous vous emmenons côté jardin. Et vous le savez, le lundi, l'émission des experts vous appartient. On attend vos questions. Les experts sont déjà là dans le studio Coluche d'Europe 1 pour vous répondre. Un numéro pour cela, 39-21, 34 centimes d'euros la minute ou europe1.fr. On peut aussi aller sur votre balcon, à vous tous, Franck notamment.
Merci Elena, mais je vous dis à demain Julia.